Un tournant historique est à l'œuvre.
On ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible.
Our world is at the crossroads.
Le citoyen, il veut un avenir pour ses enfants et ses petits-enfants.
The eyes of all future generations are upon you.
40% des emplois existants pourraient disparaître dans les 10 ou 15 ans qui viennent.
L'homme est en train de changer.
La première.
On vit peut-être un tournant là.
Déclic.
Le tournant.
Est-ce qu'on est déjà demain?
Arnaud Reusen.
C'est un mot que vous entendez revenir de plus en plus dans l'actualité.
Petit élément du tableau de Mendeleïev, l'hydrogène.
L'hydrogène vert, l'hydrogène décarboné.
Le
véritable potentiel réside dans l'hydrogène vert.
Hydrogène bleu, hydrogène vert, présenté comme élément déterminant de la stratégie européenne pour sortir de la dépendance aux énergies fossiles. Alors, l'hydrogène va-t-il nous permettre de décarboner nos industries, nos transports, tout en restant performants sur le plan économique? Est-ce le nouveau Graal de la transition? On va prendre 40 minutes pour y voir clair.
Dear colleagues, good morning. Can I ask you to take your seats, please?
Nous sommes le mercredi 14 septembre, dans l'hémicycle du Parlement européen à Strasbourg. Comme chaque année, la présidente de la Commission européenne vient prononcer son discours sur l'état de l'Union, présenter les projets de la Commission pour l'année qui vient.
It is my pleasure to give the floor to the president of the European Commission to deliver her 2022 State of the European Union address. Dear Ursula, the floor is yours.
Sur près d'une heure, Ursula von der Leyen développe sa vision d'une Europe qui doit faire face à l'invasion russe en Ukraine, mais aussi aux défis climatiques. Et ce jour-là, en français dans le texte, elle fait part aux députés de cette conviction.
L'hydrogène peut changer la donne pour l'Europe. Nous devons passer du marché de niche au marché de masse pour l'hydrogène. C'est pourquoi je peux annoncer aujourd'hui que nous allons créer une nouvelle Banque européenne de l'hydrogène. Elle aidera à garantir l'achat d'hydrogène. Elle pourra investir 3 milliards d'euros pour aider à construire le futur marché de l'hydrogène. Et c'est ainsi que nous allons bâtir l'économie du futur. C'est cela notre pacte vert pour l'Europe.
L'hydrogène, donc, comme socle de l'économie européenne du futur. Rien que ça. Et ce, alors que la filière de développement de l'hydrogène vert est encore assez embryonnaire aujourd'hui. Ça m'a donné envie d'en savoir un peu plus sur ce fameux atome, sur ses promesses et sur ses limites. Première étape. Le pôle agrobiotech de l'Université de Liège, situé, c'est un peu contre-intuitif, il faut bien le dire, à Jambloux, dans les locaux de l'ancienne abbaye. J'ai rendez-vous là-bas avec Aurore Richel, elle est professeure de chimie spécialisée dans les ressources renouvelables. Elle m'emmène directement au sous-sol du bâtiment, là où se trouve un réacteur à hydrogène.
C'est parce que c'est assez dangereux de manipuler parfois en présence d'hydrogène.
Alors j'en profite pour lui poser d'abord une question toute simple, mais essentielle. C'est quoi, au fond, l'hydrogène?
Alors, l'hydrogène, en fait, on doit même plutôt dire le dihydrogène. Donc, c'est une toute petite molécule qui est composée de deux atomes d'hydrogène. Et c'est la plus petite molécule chimique qui soit. Donc, c'est vraiment une molécule qui est très, très légère. Donc, elle est beaucoup plus légère que l'air. Et c'est une molécule qui se présente dans des conditions normales de température et de pression sous la forme d'un gaz. Et donc, c'est un gaz qu'on a découvert il y a plusieurs siècles. Les scientifiques l'ont même appelé hydrogène parce qu'en fait, ce gaz, quand il se combine avec l'oxygène qui est présent dans l'air, il génère de l'eau. Et donc, le nom hydrogène vient de là, hydrogène qui génère de l'eau. Et donc, c'est une molécule qu'on a découverte il y a très, très longtemps et qui, pour le moment, est en train d'être remise sur le devant de la scène parce qu'on prête à l'hydrogène des propriétés intéressantes, notamment dans les plans de décarbonation pour son pouvoir énergétique. Mmh.
Et on dit souvent, on se souvient d'ailleurs à l'école, que c'est le premier élément du tableau de Mendeleïev, que c'est l'élément qui est le plus présent dans notre univers, c'est juste ?
Alors l'hydrogène, il est bien présent, donc l'atome d'hydrogène est bien présent dans tout l'univers, c'est même un des atomes qui est le plus abondant dans l'univers. Sur la Terre, l'hydrogène est aussi présent sous forme d'atomes, et ces atomes, ils rentrent dans la composition de plein de choses, de l'eau, donc toute l'eau qui nous entoure, les océans, les mers, les cours d'eau, il y a de l'hydrogène dedans. Il y en a aussi dans les êtres vivants, il y a de l'hydrogène en nous, des atomes d'hydrogène, il y en a dans le corps humain, il y en a dans les plantes aussi, dans la biomasse, c'est-à-dire dans les arbres, dans les déchets organiques parfois. Et puis il y en a aussi, sans le savoir, de l'hydrogène dans les ressources fossiles, qui sont un puissant réservoir d'atomes d'hydrogène. Donc il y en a dans le pétrole, le gaz naturel, il y en a même en moindre portion dans le charbon, par exemple.
Mais le problème qu'on a avec l'hydrogène, c'est qu'on ne le trouve jamais pur. Donc si on veut avoir de l'hydrogène, d'une manière ou d'une autre, il faut le séparer des autres atomes auxquels il est attaché.
Oui, alors la molécule d'hydrogène, donc H2, elle existe sur Terre, mais dans des gisements en toute petite quantité. Donc le grand challenge de l'hydrogène, de la molécule d'hydrogène, c'est qu'il faut la synthétiser au départ d'une matière qui contient des atomes d'hydrogène. Alors on peut le synthétiser à partir de plantes, d'arbres, de déchets végétaux. On peut le synthétiser aussi au départ d'autres choses, et ces autres choses sont les ressources fossiles. Donc l'hydrogène qui est aujourd'hui sur le marché, la molécule d'hydrogène, elle est produite surtout à partir de gaz naturel. Donc plus de 70% de l'hydrogène qu'on utilise aujourd'hui vient du gaz naturel qui a été converti, qui a été traité pour en isoler la molécule d'hydrogène. Et puis 20% environ de l'hydrogène que l'on retrouve vient aussi du charbon, qui reste une matière intéressante pour produire la molécule d'hydrogène. Et puis il y a 2%, même un peu plus, un peu moins, ça dépend des années, qui provient alors de l'eau, qui reste aussi une des matières les plus intéressantes pour produire la molécule d'hydrogène.
Oups, voilà un premier élément qui peut surprendre. Notre hydrogène, présenté souvent dans les débats du moment comme l'une des clés pour une énergie plus verte, est en fait produit dans l'écrasante majorité des cas aujourd'hui, au départ d'énergie fossiles. Je reprends les chiffres d'Aurore Richel. Plus de 90% de l'hydrogène consommé aujourd'hui est synthétisé au départ de gaz naturel et de charbon. Et ce n'est que dans 2% des cas que l'on produit cet hydrogène au départ d'eau. Donc, aujourd'hui, l'hydrogène, dans l'essentiel des utilisations, est tout sauf un carburant vert. Mais ne brûlons pas les étapes. On est au sous-sol de la faculté agrobiothèque de Jean Blou et Aurore Richel me présente son réacteur à hydrogène de laboratoire.
Alors, on charge ici le réacteur. Donc le réacteur, il pèse très 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 lourd, si vous voulez le sentir.
Ah oui, c'est plusieurs kilos alors que c'est pas très grand.
C'est plusieurs kilos, c'est la taille d'une tasse de café. On voit que la paroi, elle fait au moins presque 2 cm d'épaisseur. Et donc ça permet de mettre quelques milligrammes à peine de matière. On va mettre ça dans le réacteur, on va le peser et puis on va venir le mettre encore dans une paroi de protection. Donc la paroi de protection, elle doit faire 25-30 cm de diamètre, et elle aussi, elle est épaisse de 3 cm ici sur les parois. Et donc ça permet, s'il y a un risque, de contenir le risque à l'intérieur du réacteur, puisque, on le sait, l'hydrogène, parfois, peut provoquer des risques d'explosion. Donc une fois que le réacteur est chargé, on va faire descendre ici la sonde de température qui va permettre alors de monter progressivement le réacteur à la température désirée. Et puis la réaction va avoir lieu au sein du réacteur. Il va y avoir une série de gaz qui vont être formés. Et donc on peut lire ici la pression en gaz qui va commencer à se former. Donc ceci, ça mesure la quantité des gaz. Et ici, on va pouvoir analyser par les valves de sortie la nature des gaz qui se forment et leur quantité. Donc à tout instant, on peut dire, voilà, j'ai X pression de gaz qui se sont formés dans mon réacteur et mon gaz contient beaucoup d'hydrogène, un peu moins d'hydrogène, etc. Et ça permet de rationaliser pour avoir des plans d'expérience qui nous donnent le maximum d'hydrogène dans les conditions qu'on aura configurées comme étant les plus optimales.
Mais donc ici, on a un réacteur de laboratoire universitaire qui est profilé d'une certaine manière aussi justement pour pouvoir faire différentes expériences. Dans la réalité aujourd'hui de la production industrielle d'hydrogène, le plus souvent, c'est un processus relativement simple, même si quand même dangereux, enfin qu'il faut bien encadrer, mais ça se fait au départ de ressources fossiles la plupart du temps, en fait, au Richel.
Oui, c'est ça. Donc il y a plus de 70% de l'hydrogène qui est produit aujourd'hui, ben, qui vient du gaz naturel, que l'on convertit à très haute température dans un procédé qu'on appelle du vaporéformage, c'est-à-dire qu'on traite du méthane, donc du gaz naturel, avec de l'eau, et l'hydrogène s'accompagne alors, cette fois-là, de la cogénération d'une autre molécule qui est problématique, qui est le dioxyde de carbone.
Le CO2, donc, pour l'appeler autrement.
C'est le fameux CO2 qui est un gros problème. Alors le problème est exactement le même quand on produit de l'hydrogène à partir de charbon. Il y a aussi l'émission dioxyde de carbone. Sur une année, on considère que les émissions dioxyde de carbone associées à la production d'hydrogène s'élèvent à plus de 800 millions de tonnes. Donc c'est un volume considérable. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas à négliger, qui n'est pas anecdotique aujourd'hui.
Donc, quand on parle, et ça va être un peu le cœur de cet épisode ici, d'hydrogène vert, par exemple, pour demain, évidemment, c'est pas de ça dont on parle. On ne parle pas de cet hydrogène qui aujourd'hui est produit au départ de charbon ou de gaz naturel, mais de l'idée d'en produire autrement.
Alors c'est ça, alors même si ce mot ne laisse pas sous-entendre, parce que vert, on a toujours l'impression que ça fait référence au végétal, etc., l'hydrogène vert, c'est un hydrogène qui serait produit à partir d'eau. Donc ce que l'on va faire, c'est éclater la molécule d'eau en deux autres molécules, donc de l'hydrogène d'une part, qui est la molécule qui nous intéresse, et cette fois-ci, ça s'accompagne de la génération d'oxygène, qui n'est plus alors du dioxyde de carbone. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça l'hydrogène vert. C'est parce qu'il est produit à partir d'eau et non plus à partir de ressources fossiles, et parce que le bonus, c'est que cet hydrogène serait produit aussi à partir de ressources renouvelables, donc les ressources énergétiques qui ont été mises en œuvre pour générer cet hydrogène à partir d'eau sont en théorie des énergies renouvelables, alors des panneaux photovoltaïques, des éoliennes, mais c'est ça l'hydrogène vert, ou la philosophie de l'hydrogène vert, c'est de le produire complètement dissocié des énergies fossiles.
Schématisons un peu en utilisant les codes couleurs communément admis. L'hydrogène le plus utilisé aujourd'hui est ce qu'on appelle l'hydrogène gris, synthétisé au départ de gaz et de charbon, et dont la production émet plus de 800 millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. C'est plus, tenez-vous bien, que l'ensemble des émissions du secteur aérien. À côté de cela, on parle de plus en plus de créer une filière d'hydrogène vert. Là, c'est de l'hydrogène qu'on synthétiserait au départ de l'eau, grâce à de l'électricité, dans ce qu'on appelle un électrolyseur, qui serait du coup alimenté par des sources d'énergie renouvelables, des champs d'éoliennes ou des panneaux photovoltaïques, afin d'avoir un carburant propre et produit proprement. Hydrogène vert, donc, par opposition à l'hydrogène gris. Mais vous avez peut-être aussi déjà entendu parler de l'hydrogène bleu. De quoi s'agit-il ? J'ai évidemment aussi posé la question à Aurore Richel.
Alors, l'hydrogène bleu, c'est un hydrogène qui a été produit à partir de ressources fossiles, donc gaz naturel par exemple. Mais cette fois-ci, comme on sait que le procédé s'accompagne d'émissions dioxyde de carbone, eh bien l'hydrogène bleu, en fait, c'est un hydrogène qui est obtenu avec capture du CO2 qui aurait été généré pendant le processus. Donc c'est ça, en fait, de l'hydrogène bleu. Ça n'a pas une connotation qui fait penser à l'eau ni rien. En fait, l'hydrogène bleu, c'est un hydrogène qui a été produit avec capture de CO2.
Donc l'hydrogène bleu, c'est comme l'hydrogène gris, mais au lieu de laisser le CO2 s'évader dans l'atmosphère, on va le capturer et soit aller le réinjecter dans le sous-sol, ou alors essayer d'en faire des matières plastiques, par exemple, pour piéger le carbone et qu'il ne puisse pas aller accentuer l'effet de serre en s'échappant dans l'atmosphère. À côté de cela, notre hydrogène vert a donc des allures, lui, de solution miracle. Une filière propre de bout en bout, pas de CO2 à récupérer, mais il y a un hic, et un fameux. Cet hydrogène vertueux n'est pas du tout facile à produire. Le processus de séparation des atomes d'hydrogène et d'oxygène consomme beaucoup, beaucoup d'énergie.
Il y a une règle en chimie qui dit que plus une molécule est stable, et c'est le cas de l'eau, plus il faut de l'énergie pour l'éclater en molécules qui pourraient être valorisables, ici en l'occurrence en hydrogène. Donc tout le défi de la recherche, c'est de mettre en place des nouveaux systèmes qui vont permettre d'économiser l'énergie sur l'ensemble du procédé de production, et ça passe notamment par le développement de nouveaux matériaux, de nouvelles électrodes qui vont permettre, alors quand on va faire passer du courant dans cette solution qui contient de l'eau, de l'éclater de manière correcte et efficace en hydrogène et en oxygène.
Voilà donc une première grosse ombre au tableau de cet hydrogène vert. Dans l'état actuel de la recherche, le produire est extrêmement coûteux en énergie. Il faut plus d'énergie pour synthétiser l'hydrogène que ce que l'hydrogène pourra rendre comme énergie une fois synthétisé. Mais les chercheurs considèrent que le jeu en vaut quand même la chandelle, ne serait-ce que pour remplacer demain tout l'hydrogène gris qu'on utilise déjà aujourd'hui, et à vrai dire, on en utilise énormément.
L'hydrogène, on l'utilise dans les raffineries pétrolières pour former nos carburants. On l'utilise aussi pour produire du méthanol, qui est un solvant pour le secteur de la chimie. Et puis on l'utilise aussi, surtout pour faire autre chose, c'est pour faire de l'ammoniac. Et l'ammoniac, c'est la molécule de base pour faire tous les engrais azotés qui sont utiles pour amender les sols, etc. Et donc l'hydrogène n'est pas seulement utilisé pour ses performances énergétiques, et c'est là où il faut insister dans le message. L'hydrogène est aussi utilisé pour ses propriétés intrinsèques à jouer le rôle de réactif dans certaines fabrications industrielles, qui sont des fabrications industrielles qui restent majeures pour le secteur chimique belge ou même international.
Je note donc trois points essentiels dans le carnet du tournant. Premièrement, l'hydrogène a des propriétés très utiles, mais est assez complexe à produire. Aujourd'hui, on le synthétise surtout au départ d'énergie fossile, ce qui émet énormément de CO2. Si demain, on espère pouvoir le synthétiser de plus en plus au départ d'eau, cela va nous coûter par contre beaucoup d'énergie. Deuxièmement, avant de rêver d'utiliser l'hydrogène vert comme substitut aux carburants fossiles, il va d'abord falloir remplacer tout l'hydrogène gris qui sert déjà aujourd'hui dans l'industrie. Et l'on parle là de quantités énormes. Et puis enfin, troisièmement, si sur papier l'idée de réaliser l'électrolyse de l'eau avec des énergies renouvelables pour une filière 100% propre est très séduisante, dans les faits, la technologie n'est pas encore tout à fait mature, et en Europe, on est encore au stade expérimental. Les projets à grande échelle sont toujours dans les cartons. Qu'à cela ne tienne, certains acteurs belges fondent beaucoup d'espoir dans le développement de l'hydrogène vert. C'est le cas de l'entreprise John Cockerill à Seraing, une société héritière du passé sidérurgique wallon et qui aujourd'hui, en pleine croissance, mise sur le renouvelable. Elle a choisi dès 2018 de mettre un pied dans la filière hydrogène. Au cœur de Seraing, dans un bâtiment en forme de grand cube de béton, j'ai la chance de voir un premier électrolyseur industriel que des ouvriers de John Cockerill sont en train d'installer sur un banc d'essai. À côté d'un dispositif impressionnant destiné à l'approvisionnement électrique, trône l'électrolyseur. Il ressemble à un immense cylindre métallique de plusieurs mètres de long, couché et attaché au sol. Un peu comme une juxtaposition de crêpes métalliques que l'on aurait accolées et enserrées les unes contre les autres.
Et ça, il faut le redresser, il faut le lisser. Donc, on a quatre redresseurs. Venez voir.
C'est à l'intérieur de ce cylindre que va se faire la réaction chimique par électrolyse pour séparer l'oxygène de l'hydrogène.
Le process, c'est que, au départ, le liquide arrive par le bas, sort par le haut, et il est déjà séparé intérieurement. Il y a côté oxygène, au côté hydrogène. D'accord ? Ensuite, ce liquide, il arrive ici. Et je dis, là, je vais recevoir un énorme séparateur de 20 tonnes qui monte jusqu'en haut, en deux pièces. Et lui, en fin de compte,
il finit de séparer la partie liquide et gaz. D'accord ? Donc la partie liquide, ce sont des résidus. Ça, c'est ce qu'on appelle le lye ou le carwash. C'est très acide, d'accord ? C'est pour ça qu'il y a une rétention. Et vous avez des bacs en double enveloppe, en PEHD. Voilà. Et la partie gaz, pour ce projet, ça va aux petits oiseaux. Parce que le but, en fin de compte, c'est de faire fonctionner l'électrolyseur pour voir la production. Voilà.
Okay. Pour mieux comprendre comment tout ça fonctionne, direction les bureaux de John Cockerill. Situé dans un bâtiment très moderne, au style aérien, couvert d'un bardage métallique ajouré et doré, qui vient comme se greffer sur l'ancien château de John Cockerill, père de la sidérurgie wallonne. Comme un pont architectural entre le passé industriel liégeois et l'une de ses voies d'avenir possibles.
Le château a en fait été cédé à John Cockerill il y a un peu plus de 200 ans par Guillaume d'Orange de Hollande.
Je retrouve là-bas Raphaël Thilault, responsable de tout le pôle énergie renouvelable et hydrogène pour John Cockerill, le groupe liégeois qui emploie aujourd'hui quelques 5500 personnes dans le monde.
Raphaël Thilault, enchanté.
Merci de me recevoir.
Avec plaisir. Merci de venir chez nous.
Et je demande à Raphaël Thilault de m'expliquer, au calme, comment fonctionne concrètement l'électrolyseur actuellement installé sur le banc de test.
Donc un électrolyseur est un équipement qui sépare les molécules d'eau en hydrogène d'un côté, oxygène de l'autre. Donc un électrolyseur essentiellement est composé de quelques équipements clés. L'alimentation en électricité, pour transformer le courant en courant continu, faire varier la puissance. Le cœur de l'électrolyseur, c'est ce qu'on appelle le stack. Alors le stack est un gros équipement d'une cinquantaine de tonnes, dans la version de John Cockerill, qui est un empilement de cellules.